Vous écoutez, on lit pour vous.
Donner des ailes, un texte de Patrick Lagacé, paru le 1er mars 2026 dans la presse. Quand Simon Moffat Fréchette est arrivé en secondaire 1, il était baveux et confrontant, mais aussi parallèlement brillant, attachant. La turbulence intelligente, si vous voulez. Le genre d'élève, donc, qui peut venir à bout de la patience des profs de l'école. Je le cite. J'étais arrogant. Je cherchais de l'attention. Je manquais de respect. J'intervenais quand c'était pas le temps. C'était il y a 22 ans. Tout aurait pu déraper. En fait, tout aurait dû déraper pour Simon. Ce talent pour faire suer, doublé d'un manque de persévérance dans les matières, tout cela aurait pu, aurait dû l'envoyer dans des sentiers de vie très mal éclairés. Surtout que, sous ce comportement turbulent, il y avait quelque chose de plus fondamentalement croche dans sa vie. À la maison, comment dire, ça n'allait pas. Simon m'a raconté la bande-annonce de sa vie d'enfant. Il ne veut pas nécessairement que tous les rebondissements de ce film triste soient exposés dans la presse. Mais résumons ainsi son enfance. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il traînait son mal de vivre, sa colère, son déficit d'estime de soi à l'école. Et ça sortait tout croche. Quelqu'un, à l'école secondaire du Tournesol de Windsor, a vu que, caché derrière le Simon confrontant, il y avait un autre enfant qui gagnait à être connu, un enfant fragile et sensible, si on était assez patient pour le découvrir. Quelqu'un qui a cru en Simon, qui ne l'a jamais lâché. Guylaine Cloutier, une de ses profs de secondaire 1. Simon n'a rien oublié de Guylaine. Il a tout gardé. Rien oublié des mots d'encouragement de cette prof de science tout au long de son secondaire 1. Des mots d'encouragement de Guylaine quand, après avoir fini son secondaire sans diplôme, elle venait le visiter à la boutique Le Château où il travaillait. Tout gardé, les cartes de fête, les lettres d'encouragement de Guylaine, tout au long de son secondaire, de son cégep et de son université. Quelque chose s'est scellé entre Simon et Guylaine quand, lors d'une expo science, l'enseignante a compris bien des choses sur la vie de cet élève particulier, sur les épines de la rose qu'il était, si je peux m'exprimer ainsi. Après le secondaire 1, Guylaine n'était plus la prof de Simon. Mais, se souvient-il, elle a travaillé en coulisses pour me maintenir à l'école, devenant son ambassadrice ad hoc, dans l'école, auprès des profs et des directions. Elle leur disait, se souvient-il, « Simon en vaut la peine ». Simon a encore la carte de fête que Guylaine lui a donnée en 2007 pour ses 17 ans, le 19 décembre. Beaucoup d'amour et de paix pour l'année 2008. Sans oublier, bien sûr, du succès dans tes études, comme le disent les vieilles matantes et les profs. Et à la fin de son secondaire 5, ce n'est pas à un ami que Simon a demandé d'écrire une description dans l'album définissant, c'est à Guylaine. Il a encore l'album et les mots de Guylaine qui bordent sa photo. Certains entrent dans notre vie et ne font que passer. D'autres s'y attardent et laissent des empreintes qui nous transforment à jamais. Tu fais partie de ces gens, mon cher Simon, créatif, vif d'esprit, franc, relationnel et sensible, pour ne nommer qu'une infime fraction de ce qui te rend unique. Quand Simon a quitté le Tournesol, après son secondaire 5, Guylaine Cloutier a gardé le lien. Elle l'a poussé à finir son secondaire 5 Il ne lui manquait qu'un cours d'anglais. Elle allait le voir à la boutique. Ils allaient dîner. Elle l'encourageait. Se souvenait de ses anniversaires. Les soulignait. Guylaine lui disait « Quand est-ce que tu vas au cégep? » Pour Simon, c'était comme lui demander « Quand est-ce que tu vas escalader l'Everest en gougoune? » C'était pour les autres, le cégep. Sauf qu'il s'y est inscrit 1 an et demi après la fin de son secondaire. Surprise, Simon avait d'excellentes notes. Et une fois par session, il dînait avec Guylaine et lui présentait ses bulletins. La tradition s'est poursuivie à l'université. Il dînait une fois par session et Simon présentait à Guylaine ses résultats en droit. Elle était fière de moi. Et ça me faisait tellement plaisir. Ça me rendait fière de moi. Ça me donnait des ailes. En avril 2015, quand Simon a obtenu son bac en droit, Guylaine lui a donné une autre carte. « C'est fou ce que la vie nous réserve. Te voilà bachelier en droit. Ce succès bien mérité résulte de ta volonté, de tes efforts et de ta persévérance. Je suis très fière de tes accomplissements. » Et en juillet 2017, quand Simon a prêté serment comme avocat, qui était là? Guylaine, bien sûr. Guylaine, elle, avait des réticences à me parler. Elle n'est pas du genre à se mettre de l'avant. Elle ne voulait pas d'une chronique qui en ferait une sorte d'héroïne. Elle m'a dit qu'elle n'avait fait que sa job de prof. Je lui ai répondu, étonnée, qu'elle est allée bien au-delà de sa job de prof. Je lui ai cité les souvenirs de Simon, tout ce que je viens de vous décrire, et même plus. Il a fallu que j'insiste, que je la rassure, pour qu'elle accepte de participer à cette chronique sur le merveilleux métier de prof, sur les profs merveilleux qui sont, souvent, bien plus que des profs. Après notre entrevue, plein de souvenirs sont remontés à la surface et Guylaine m'en a envoyé par texto. Comment, par exemple, à chaque 19 décembre, même quand Simon n'était plus son élève, elle l'appelait à l'intercom pour le convoquer et lui dire simplement « Bonne fête et bonnes vacances de Noël ». Le vendredi 19 décembre 2025, c'était le jour de l'anniversaire de Simon, 35 ans. C'était aussi le dernier jour d'enseignement de Guylaine Cloutier à l'école du Tournesol. Et qui était là? Simon. Simon qui s'est glissé dans la classe de Guylaine avec la connivence des profs de l'école et qui s'est assis avec les élèves pour souligner la fin de ses 35 ans de carrière. Il a fait filmer la scène. Le visage de Guylaine s'illumine quand elle l'aperçoit parmi ses élèves, lui qui est devenu son ami au fil des décennies. Il y a, en ce moment même, tout plein de profs au Québec qui sont comme Guylaine, souvent sans le savoir, des phares qui illuminent la nuit de nos enfants. C'était « Donner des ailes », un texte de Patrick Lagacé, paru le 1er mars 2026 dans la presse.
Chiffrer l'immigration ou écouter les personnes. Le pouvoir des récits de vie. Un texte de Consuelo Vasquez, Camila Goytisolo de Sainz et Wang Cam Nguyen, paru le 28 janvier 2026 dans La Conversation. Les débats sur l'immigration, qui défraient les manchettes québécoises et internationales, abordent fréquemment le sujet à travers les chiffres. Comme tout dossier politique, l'immigration soulève bien entendu des défis logistiques, mais aussi des réalités humaines. Considérant la prévalence d'une approche technique de la question migratoire, nous déplorons le peu de place accordée collectivement aux humains derrière les indices numériques, à leur parcours, à leurs histoires. Derrière ces chiffres se trouvent des trajectoires particulières, faites d'espoir, de rupture et d'ajustement. C'est ce que nous cherchons à mettre en lumière dans le projet de recherche « Entraide dans les marges » à l'Université du Québec à Montréal, qui documente les formes d'entraide émergentes dans des contextes de précarité comme celui associé à l'immigration. Pour réintroduire l'humain dans un débat largement dominé par des considérations quantitatives et objectives, nous nous appuyons notamment sur la notion d'escrevivencia, qui désigne un acte d'autonarration politique permettant aux personnes marginalisées de raconter elles-mêmes leur expérience depuis les marges et ainsi de se réinscrire dans l'histoire. L'escrevivencia se distingue à cet égard de l'autobiographie classique en ce qu'elle porte explicitement une visée politique et collective. Elle émane toujours de personnes subalternisées dont la prise de parole vise à transformer le regard social envers leur communauté et à revendiquer une place dans l'espace public. Escrevivencia, réhumanisée par l'autonarration. L'escrevivencia, concept forgé par la romancière brésilienne Conceição Evaristo en 1996, désigne l'acte d'écrire vivre, une écriture où la vie devient affirmation politique et production de savoir. Ancrée dans les traditions afro-diasporiques, elle souligne la mémoire collective, la réappropriation des racines et l'identité communautaire. Écrire, ici, c'est résister à la « desmémoire » que les récits de ceux en situation de pouvoir imposent lorsqu'ils parlent en notre nom, nous instrumentalisent ou tout simplement ne parlent jamais de nous. L'écriture vient dans ce contexte transformer la douleur en force créatrice, l'oubli en volonté de se faire entendre. Née dans les marges, l'escrevivencia permet aux sujets historiquement réduits au silence, notamment les femmes noires, de passer de l'objectivité à la subjectivité. Par l'autonarration, elle reconstitue le lien entre corps, mémoire et parole, redonnant humanité à celles et ceux que l'histoire a souvent effacés ou condamnés. L'écrivaine afro-brésilienne Conceição Evaristo est une figure importante de l'escrevivencia. Dans son conte « O Espelho Opaco de Ceni », écrit en portugais et publié en 2022, Evaristo relate l'histoire de Ceni, une femme noire incapable d'apercevoir son reflet dans le miroir. Au terme du récit, devant les miroirs dorés de sa petite fille, elle parvient enfin à se reconnaître avec une clarté ancestrale. En saisissant son propre reflet, celui d'une lignée de femmes noires longtemps déniées, elle transforme l'image en mémoire vivante. Ce geste d'auto-reconnaissance, partagé par sa petite fille et toutes leurs ascendantes, reconstitue le lien entre corps, temps et parole, un passage de l'objectivité imposée à la subjectivité réaffirmée. Dans le contexte migratoire, cette pratique acquiert une portée universelle. Raconter devient un acte de guérison et d'émancipation. Les autonarrations se présentent comme des discours minoritaires assumés, mais revendiquant la possibilité de pouvoir parler en retour afin de réinscrire tant l'histoire subjective que collective. L'escrevivencia devient ainsi un geste collectif de reconstruction, un espace pour recréer le monde depuis les marges. Je ne veux pas être traité comme un numéro. L'expérience de Cecilia. Parmi les récits oraux recueillis dans le cadre de notre projet Entraide dans les marges, celui de Cecilia, un pseudonyme, arrivé du Mexique il y a 2 ans, illustre la portée de l'escrevivencia dans le contexte migratoire. Enseignante de mathématiques dans son pays, mère d'un jeune enfant, elle amorce au Québec une recherche d'emploi qui la confronte à de multiples obstacles linguistiques et administratifs. Elle raconte qu'un premier organisme d'aide lui aurait conseillé, allant à l'encontre des principes interculturalistes québécois, d'oublier tout ce qu'elle savait, comme si son expérience, sa formation et son identité professionnelle n'avaient plus aucune valeur ici. une claque dans la figure, dira-t-elle plus tard. Heureusement, son parcours ne s'arrête pas à cette blessure. Une intervenante, elle-même migrante, puis un enseignant de français dans un centre communautaire, devenu depuis un ami proche, l'ont accueillie et soutenue. Lors de ces rencontres, dit-elle, j'ai été traitée comme une personne, pas comme un numéro. Peu à peu, elle reconstruit sa confiance et redéfinit sa trajectoire professionnelle. Aujourd'hui, elle travaille au sein d'un organisme communautaire où elle accompagne des travailleurs internationaux temporaires en les informant de leurs droits et des ressources disponibles. Pour Cécilia, raconter son histoire l'a amenée à réaliser que le problème n'était pas en moi, mais, en fait, dans le regard des autres. À son tour, elle souhaite soutenir d'autres femmes migrantes pour leur éviter, si possible, de traverser seules les mêmes épreuves. Des initiatives inspirantes. D'autres initiatives s'inscrivent dans cette volonté de donner place aux autonarrations des personnes migrantes et réfugiées. C'est le cas de Jade Bédard et de Christina Bastien, fondatrices de l'OBNL Histoire d'espoir, avec lesquelles nous collaborons dans le cadre du projet Entraide dans les marges. Par la diffusion de récits de personnes ayant immigré au Québec, elles offrent un espace d'expression où se croisent résilience, courage et espoir. Ces témoignages visent à rejoindre d'autres personnes ayant un vécu semblable, tout en sensibilisant la société d'accueil à la pluralité des trajectoires. De la même manière, Paul Thom, réalisateur du documentaire « Bagages », avec qui nous collaborons aussi, explore le pouvoir de la narration collective à travers le récit de jeunes nouvellement arrivés au Québec. Provenant de pays aussi divers que le Brésil, la Chine, l'Ukraine, la Colombie, ces jeunes racontent leur parcours migratoire et leur intégration via des ateliers d'art dramatique. Ces deux initiatives, parmi tant d'autres, nous rappellent qu'au-delà des chiffres et des slogans, les histoires vécues, fragiles, puissantes et multiples, comptent également, et qu'elles ont le pouvoir de tisser des liens et de transformer les imaginaires. C'était « Chiffrer l'immigration ou écouter les personnes ». Le pouvoir des récits de vie. Un texte de Consuelo Vasquez, Camila Goytisolo de Sainz et Wang Cam Nguyen, paru le 28 janvier 2026 dans La Conversation.
Juriste mobile, pour une justice près de chez vous. Un texte de Lila Dussault, paru le 18 janvier 2026 dans la presse. Maître Sacha Gritchevic-Lesage veut adapter la justice aux gens qui en ont besoin. 6h39, c'est le temps qu'aurait pris Maître Sacha Gritchevic-Lesage pour se rendre de Montréal à Actonvale en vélo. Oui, la Montréalaise a fait le calcul. Elle s'est résolue à conduire pour offrir ses services gratuits à 127 km de chez elle. Ça a été un choc, confirme l'avocate de 29 ans. Mais un choc salutaire. Près de 3 ans après avoir passé son barreau, Maître Sacha Gritchevic-Lesage a trouvé ce qui l'anime, amener la justice à ceux qui n'ont pas les moyens de consulter un juriste. InfoJustice, auparavant les centres de justice de proximité, déploie depuis l'automne des services directement dans quelques communautés vulnérables du Québec. Maître Gritchevic-Lesage est donc l'une de ces juristes mobiles qui ont choisi de sortir de leur bureau et de leur zone de confort pour offrir de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin. Et s'il faut parcourir la glissante route 116 vers Actonvale dans la première tempête de neige automnale, ainsi soit-il. Je me lève le matin pour un emploi qui me passionne, qui me donne la drive. Chaque journée est différente. Le sourire des gens, le plaisir que ça me donne de sentir que je les aide à reprendre le contrôle de leur vie. C'est ma paix tous les jours. Maître Sacha Gritchevic-Lesage, avocate. L'humain avant tout. Enfant, la jeune Sacha a eu un coup de foudre pour ce que faisait son pédiatre. Je trouvais que ça avait l'air tellement incroyable son métier. À la sortie du cégep, elle commence donc des études en médecine à l'université McGill pour vite déchanter. Finalement, je pense que c'est l'aspect de la relation humaine que j'avais identifié et que j'aimais, analyse-t-elle. Quelques tergiversations plus tard, elle se retrouve en droit à l'Université du Québec à Montréal. Après un passage au directeur des poursuites criminelles et pénales, DPCP, puis à l'aide juridique, elle tombe amoureuse de la justice de proximité. Puis vient cette occasion avec Juriste Mobile, une recherche-action financée notamment par le Fonds d'études notariales. Quand je suis rentrée en droit, c'était pour trouver une façon de redéfinir l'accès à la justice et d'aider les gens, explique-t-elle. Désert juridique. Nous retrouvons Maître Gritschewik-Lesage un lundi matin de novembre dans les locaux de l'organisme Ressources Femmes de la région d'Acton, en Montérégie. Ce jour-là, l'avocate offre à une dizaine de femmes une formation sur les droits en matière de violence conjugale. Dans l'après-midi, elle enchaînera avec des rencontres individuelles. Sacha a le tour d'animer des ateliers, mais aussi de contrôler les questions pour qu'on ne s'éparpille pas ou que les gens tombent dans leur cas privé, observe Daniel Gay. La retraitée de 69 ans est enchantée de la présence de l'avocate à Ressources Femmes. On est loin de la justice dans la MRC d'Acton, donc ça nous permet de poser toutes les questions nécessaires pour savoir si ça vaut la peine d'aller consulter un avocat et de dépenser son argent, Daniel Gay. La MRC d'Acton a été sélectionnée par InfoJustice en raison du désert juridique qui y règne. Aucune ressource, comme l'aide juridique ou un organisme communautaire dans le domaine, ne s'y trouve. En parallèle, la région rurale a aussi des enjeux de pauvreté, de mobilité, de vieillissement, de littératie. Ça fait longtemps qu'on nous avait demandé si c'était possible de faire venir un notaire ou un avocat pour répondre aux questions des membres, observe Catherine Gazaille, directrice adjointe et intervenante chez Ressources Femmes. Quand elle a été contactée par Maître Gritschewik-Lesage pour le projet, elle a sauté sur l'occasion. L'offre était trop intéressante pour laisser ça de côté. C'est très, très positif. Catherine Gazaille, directrice adjointe et intervenante chez Ressources Femmes de la région d'Acton. En plus de sa présence à Ressources Femmes, Sacha offre aussi depuis l'automne des consultations deux fois par semaine à la Corporation de développement communautaire d'Acton. Ses clients n'ont rien à payer. Ils sont recommandés par des organismes de la région ou peuvent s'inscrire eux-mêmes. L'avocate accompagne les Valois sur une panoplie de questions, succession, conflits familiaux, violences conjugales, travail, logement, demande de pardon, etc. Elle ne peut toutefois pas faire de représentation devant les tribunaux. Jusqu'à présent, ses journées sont bien remplies. Oui, il y a des jobs en droit qui sont plus payants, reconnaît-elle, mais il y a aussi des jobs beaucoup plus plates. C'était Juriste mobile pour une justice près de chez vous, un texte de Lila Dussault, paru le 18 janvier 2026 dans la presse.
Un nouvel espoir face au cancer pédiatrique à Sainte-Justine. Un texte de Jean-Benoît Legault de la presse canadienne, paru le 15 février 2026 dans la presse. Des chercheurs montréalais ont identifié à la surface des cellules cancéreuses de nouvelles cibles qui pourraient être exploitées par de futures immunothérapies ultra-ciblées, ouvrant de nouvelles possibilités de traitement. Un nouvel outil informatique développé par une équipe du CHU Sainte-Justine, le Proteo Fusio Neo, a permis d'analyser les transcriptomes de plus de 5100 enfants atteints de divers cancers pédiatriques, ainsi que 935 lignées cellulaires. Cela a mené à l'identification à la surface des cellules cancéreuses de néo-antigènes, c'est-à-dire des petits fragments de protéines anormales issus de fusions de gènes. Ce qui caractérise les cancers pédiatriques, c'est une espèce de marque génétique assez unique, a dit la responsable de la plateforme de protéomique et d'immunopeptidomique au CHU Sainte-Justine, Isabelle Sirois, qui a discuté des travaux de son équipe avec la presse canadienne en marge de la Journée internationale du cancer de l'enfant. On appelle ça des gènes de fusion, qui sont des bouts de gènes qui se fusionnent ensemble puis qui créent des supergènes qui, à eux seuls, peuvent induire le cancer. Donc, quand on a besoin de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques qui sont uniques aux cellules cancéreuses, eux, ils ont cette marque-là. Des nouvelles immunothérapies ultra-ciblées permettent d'espérer qu'on sera un jour en mesure d'attaquer spécifiquement les cellules cancéreuses sans nuire aux cellules saines. Mais pour ce faire, on doit obligatoirement présenter au système immunitaire des cibles qui se trouvent uniquement sur les cellules malades. Au cœur de cette promesse thérapeutique se trouve l'immunopeptidomique, une approche qui permet d'identifier les petits fragments de protéines à la surface des cellules. La spectrométrie de masse et les outils informatiques développés dans le cadre d'une nouvelle étude publiée par le journal iScience ont pu prédire, puis confirmer, que les néo-antigènes issus de fusions de gènes sont bel et bien présentés à la surface des cellules cancéreuses. La cellule doit se débarrasser de ses déchets de protéines de manière plus ou moins continue, explique Isabelle Sirois. Ces déchets sont chargés sur des molécules qui les amènent à la surface cellulaire, et ça sert de drapeau moléculaire pour le système immunitaire. En d'autres mots, a-t-elle précisé, le système immunitaire surveille à la surface s'il y a des petits bouts de protéines qui ne sont pas supposés être là. Tous les néo-antigènes ne représentent toutefois pas le même potentiel thérapeutique, mais certains se révèlent particulièrement intéressants puisqu'ils sont extrêmement spécifiques et distincts des peptides associés aux protéines normales de l'organisme, ce qui en fait des cibles de choix pour des immunothérapies de précision. Ces développements permettent d'envisager le développement de vaccins à ARN messager qui entraîneraient la défense immunitaire à reconnaître les néo-antigènes issus de fusions de gènes, ou encore d'anticorps thérapeutiques capables soit de recruter les cellules tueuses du système immunitaire vers la tumeur, soit d'agir comme de véritables chevaux de Troie en acheminant une chimiothérapie directement au cœur des cellules cancéreuses. On va faire exactement de la même façon qu'on a fait avec les vaccins à ARN messager pendant la COVID, explique Isabelle Sirois. Mais au lieu de donner une séquence de virus, on va mettre les séquences des drapeaux moléculaires qui vont entraîner le système immunitaire à tuer les cellules tumorales chez le patient. Un des principaux avantages de leur technique, a-t-elle précisé, et qu'elle permet de déterminer la quantité de cibles à la surface des cellules, ce qui va guider le développement des immunothérapies. Car certaines immunothérapies, a dit Mme Sirois, ont besoin de beaucoup de cibles et d'autres un peu moins. Il y a vraiment de nouvelles possibilités de traitement, à part la chimiothérapie qu'on utilise depuis 70 ans pour les cancers pédiatriques, a-t-elle conclu. C'est très prometteur. C'était Un nouvel espoir face au cancer pédiatrique à Sainte-Justine, un texte de Jean-Benoît Legault de la Presse canadienne, paru le 15 février 2026 dans la presse.